France Culture.
J'ai tellement mal dormi. Mais bon, trop la vache. Là, les cheveux, ils tiennent. Ça veut dire que là, il y a 5 ou 6 jours sans douche, là, je sais plus. Allez, on va aller chercher ce Cap Nord. Let's go!
Quel moyen de se déplacer, de pérégriner pour faire naître un nouveau rapport à soi, au monde et au vivant? Comment tisser de nouvelles relations avec la nature et les autres, entre vertus écologiques et aventures humaines? De la quête de soi aux grandes causes humanitaires, partir à vélo a été une expérience incroyable et unique, partagée par nos deux invités. Des cyclonautes passionnés qui en ont été transformés et ont choisi de partager ces moments suspendus qui nous révèlent aussi de nouvelles façons d'être au monde. Avec nous, Guillaume Pettel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes diplômé en lettres de Sorbonne Université, engagé pour des causes humanitaires et vous avez réalisé un tour d'Europe en solitaire en 14 mois, at le Cyclopote, soit 22 000 km pour récolter des dons, plus de 26 000 euros précisément pour sauver deux enfants avec mécénat chirurgie cardiaque. Avec nous également, mais en distanciel, Damien Delorme, bonsoir. Vous êtes chargé de cours à l'université de Lausanne et de Genève, docteur en philosophie et théologie, auteur de L'autre rêve américain, paru chez Actes Sud. Et c'est le récit des 10 000 km parcourus à vélo à travers le continent nord-américain à la rencontre de nouvelles façons d'habiter le monde selon des vertus écologiques. Bienvenue à tous les deux, bienvenue bien sûr à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous suivent de façon fidèle ou les nouveaux entrants dans le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes toujours en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar et Célestine Babinet, avec la collaboration de Vanessa Chang, Eva Canneparo de la documentation de Radio France, sans oublier Pierre Pinault de l'INA, émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Ludovic Auger.
Cette histoire commence il y a 10 mois, 300 jours en arrière. J'ai tout juste 23 ans quand je quitte Paris sur un vélo d'occasion pour faire un grand tour de notre continent. Ces 10 derniers mois, j'ai rejoint Rome, Athènes, puis la mer Noire à vélo avant de traverser la Roumanie, l'Autriche, la Pologne et les Pays-Baltes pour me retrouver là, au pied de la Finlande, à 2000 km du point le plus septentrional de l'Europe, le Cap Nord. Ce n'est pas la destination du voyage, mais c'est l'endroit où je ferai enfin demi-tour pour rentrer à la maison. Pour remonter la Finlande, j'ai choisi un chemin un peu particulier, la route la plus à l'est possible, là où il n'y a rien sur des centaines de kilomètres, en me disant que c'était la région où je serais le moins susceptible de revenir au cours de ma vie.
C'est un peu compliqué là.
C'est la partie la plus sauvage du pays, celle que les humains ont abandonnée aux grandes forêts, au froid et aux animaux sauvages. Le Cap Nord est dans mon viseur depuis maintenant plusieurs mois, mais la route sera longue avant d'atteindre le toit de notre continent, surtout si la neige recommence à tomber et que les températures font du dégât sur le vélo.
Je peux plus faire, je peux plus avancer en fait.
Entre moi et cet endroit symbolique se trouve ce que vous allez voir dans les minutes qui suivent. Et tout commence ce jeudi 9 avril devant le port d'Helsinki, pris dans les glaces.
Tout commence Guillaume Pettel, un peu avant d'ailleurs, hein, départ sur le parvis de Panthéon-Sorbonne, c'est ça?
Exactement.
Et c'était en?
C'était en juillet 2023, juste après la soutenance de mon mémoire, fin d'études, clap de fin, départ.
Trois jours après je crois.
Ouais, exactement.
Un mémoire sur?
Sur la sincérité chez Val dans poésie un peu contemporaine on va dire.
En tout cas, vous aviez, aujourd'hui vous avez 25 ans, donc vous aviez quoi, 23 ans
Exactement, ouais.
Ouais.
Tout juste.
Pourquoi le vélo dans vos quêtes respectives? On va le comprendre aussi avec Damien Delorme, mais le vélo qui s'est imposé à vous, de quelle façon?
C'est d'abord un peu le choix de voyager longtemps en autonomie, donc en transportant du matériel d'autonomie, une tente, de l'eau, de quoi se faire à manger, des habits. Et puis, c'est aussi parce que j'ai pas le permis, parce que j'avais pas envie de faire un voyage en train non plus, que pour moi, le voyage, c'était aussi quelque chose de physique, un effort, et le goût de l'effort a lancé tout de suite l'idée du vélo. Donc, c'était un super moyen, parce qu'on peut aller vite, si c'est moche, et on peut ralentir beaucoup si c'est très beau et qu'on a envie de passer plus de temps. Et donc c'est vraiment l'outil de liberté maximale, quoi.
Liberté, autonomie, un moyen aussi de faire bouger la société et de s'investir pour vous dans une cause humanitaire, on peut en parler quand même, hein, le principe de mécénat chirurgie cardiaque.
Ouais, c'est une association qui s'occupe de financer des opérations du cœur pour des enfants qui n'ont pas accès dans leur pays aux moyens techniques ou financiers d'avoir ces opérations-là. Et qui sont donc diagnostiqués chez eux et emmenés en France ensuite dans des familles d'accueil pendant tout le temps de leur convalescence et de l'opération. Et une opération d'enfant, ça coûte 12 000 euros et pour louer les blocs, tout ça. Et donc moi, mon objectif, c'était de lever 24 000 euros pour sauver deux enfants avec cette association. Et objectif qui était un carton, puisqu'on a fini à un peu plus de 26 000 euros, presque 27 000, donc c'était incroyable.
Avec quels moyens, justement, pour communiquer, médiatiser? Parce qu'il fallait que vous ayez aussi une sphère, en tout cas, ces réseaux sociaux qui vous suivent. Et vous n'êtes pas parti avec un gros compte non plus?
Pas du tout. Je suis parti, je ne savais pas trop faire une vidéo, je n'avais jamais appris tout ça, mais je m'étais dit... je vais essayer, et puis si jamais je vois que c'est trop dur, que ça m'amuse pas du tout, que ça gâche le voyage, bah voilà, on fera ce qu'on peut. Et en fait, il y a eu pas mal d'engouement. Moi, ça me permettait aussi de donner des nouvelles à tout le monde, que j'allais bien et que voilà, la route continuait. Et c'était hyper chouette. Ça a créé plein de choses, ce compte Instagram. Donc c'était essentiellement par Instagram que je relayais la cagnotte et je montrais aux gens ce que c'était que l'aventure à vélo, et voilà, pour leur donner envie, soit de partir à l'aventure, soit de soutenir ces enfants qui sont atteints de maladies très graves parfois et qui n'ont pas de traitement. Quoi.
Donc à la fois coureur du cœur et puis en même temps coureur pour mettre à l'union et à l'unisson, en tout cas les ceux qui vous suivaient par rapport à ces paysages aussi et ces environnements, ces écosystèmes et ce vivant. Damien Delorme, le vélo de votre côté, qu'est-ce qui... à guider ce besoin, ce départ. Je pense qu'on a un petit problème technique avec Damien Delorme. Nous allons revenir vers lui, bien sûr. Guillaume Pettel, parlez-nous de ce Tour d'Europe. Parce qu'il faut quand même préciser que donc vous étiez jeune, 23 ans, sportif de haut niveau quand même, hein, mais en pratiquant le tennis. Mmh. Mais vous n'aviez jamais parcouru des kilomètres et des kilomètres à vélo. Et là, vous allez quand même partir 14 mois et parcourir 22 000 kilomètres.
Ouais, bah c'était un peu la blague je sais pas, 3 semaines du départ, parce que j'avais pas de vélo. Et donc, mes parents ont rigolé un petit peu. Oui, tu vas faire 14 mois de vélo, mais t'as pas de vélo. Donc. Et donc, finalement, un vélo d'occasion que je suis allé chercher à Rennes, chez un monsieur qui revendait le sien, parce qu'il avait mal au dos. Et puis, il n'y a pas vraiment besoin, je pense, que d'être sportif, dans le sens où on ne fait pas du cyclisme, et c'est la même différence entre marcher et courir que faire un voyage à vélo ou faire le Tour de France, quoi. Et donc, moi, j'allais doucement, je faisais des petites journées, il n'y avait pas vraiment besoin d'une capacité hors du commun, c'était pas cardio, parce que quand j'étais essoufflé, je pouvais m'arrêter. Les journées faisaient la taille que je leur donnais, donc tout ça, c'est très libre. Et donc, on peut partir en faisant 40 km par jour et 2 heures de vélo dans la journée, ou faire 15 heures de vélo si on a envie. Mais l'expérience requise, elle est, je sais pas si elle existe vraiment. Moi, je sais que j'étais plus à l'aise dans la partie bivouac et autonomie que dans la partie vélo. Je sais pas réparer mon vélo. Je sais toujours pas changer une chambre à air. Je l'ai jamais fait de ma vie. Ce qui est quand même assez beau, parce que j'ai crevé qu'une seule fois. Mais voilà, c'est un peu, je pense que le plus dur, c'est de partir. Mmh. Mais une fois qu'on est parti, après, tout s'accorde, quoi.
On trace la route. Ouais. Et alors, le parcours, comment vous l'avez établi ?
J'avais essayé de relier des points d'intérêt que j'avais. Je voulais aller voir la mer Noire, je voulais descendre dans les Balkans, voir Athènes, je voulais aussi voir le Cap Nord. Et bon, c'est des endroits qui sont très diamétralement opposés en Europe, mais c'était des goûts que j'avais. Et en ayant balisé un petit peu en Europe les points d'intérêt, j'ai essayé de les relier soit avec des véloroutes qui existent en Europe et qui sont plus ou moins balisées et plus ou moins concrètes, avec des pistes cyclables ou pas, mais qui donnent un peu une idée de l'itinéraire. Et entre ces sentiers-là balisés, j'ai connecté par des départementales, des chemins, en utilisant des applications de traçage GPS qui, pour le coup... Ça fonctionne très bien, on met deux points et on roule, quoi.
Et vous aviez quand même balisé, vous saviez où étaient les abris, parce que c'est vrai que vous partez quand même à l'aventure. C'est une relation totale au paysage et à cette vie sauvage. Hein. Ça remet quand même beaucoup de choses en question. Quand on part, il faut aussi se poser la question de où on se pose.
C'est vrai qu'on m'avait beaucoup demandé, mais tu sais déjà à l'avance où est-ce que tu vas dormir pendant 14 mois, là, toutes les nuits et tout. Et là, c'est impossible. En plus, on n'a pas envie de se mettre de deadline quand on est en voyage à vélo parce qu'il peut tout se passer. On peut avoir envie de rester 3 jours, voire 2 semaines chez quelqu'un parce que la personne est incroyable et qu'elle nous propose plein de choses et qu'on a envie de découvrir plus un endroit qu'un autre. Donc finalement, l'itinéraire terminal ressemble plus vraiment à celui que j'avais... Enfin, dans les grandes lignes, si... Mais j'ai beaucoup bifurqué, tourné. L'idée, c'est aussi de passer par tous les pays d'Europe. Donc, c'était un peu artistique comme trace.
Penser forcément aux conditions selon les saisons?
C'était un compromis. Je m'étais dit que j'aurais l'hiver en plein milieu en Europe de l'Est et début d'Europe du Nord et qu'il allait s'arrêter. Et puis, en fait, l'hiver a continué un peu plus longtemps. Et je faisais 8 mois d'hiver. C'était une sacrée expérience aussi. Ça, je pense que ça faisait partie de l'aventure et c'était plutôt positif.
Damien Delorme, je pense que nous avons retrouvé une bonne connexion, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien.
Et je me tourne vers vous pour justement plonger dans votre périple, à vous, et vous poser la question, c'est quoi être cyclonaute ? Vivre le vélo à travers ce voyage, est-ce que c'était pour vous une quête personnelle, une expérience existentielle, la découverte de soi, de vous et du monde ?
Voilà, c'est tout cela à la fois. Je crois qu'être cyclonaute, c'est d'abord vivre l'expérience du vélo autrement que comme un moyen de transport. C'est vivre le vélo comme une façon de se rapporter à soi-même, au milieu que l'on traverse et puis aux personnes et aux êtres aussi plus qu'humains que l'on va rencontrer. Et voilà, alors cyclonaute, c'est un concept que je reprends à Claude Martaler, un grand voyageur à vélo genevois, et qui permet pour moi de comprendre le voyage à vélo comme à la fois voilà, une démarche où il y a une épreuve de soi, mais aussi toute une réflexion philosophique, une façon de se mettre à l'écoute des milieux que l'on va traverser et que l'on va rencontrer.
Oui. Alors pourquoi vous décidez de partir aux États-Unis ?
Voilà, alors je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de recommencer. Je suis enseignant en philosophie dans le secondaire et j'ai envie de faire une thèse en philosophie. J'ai envie de travailler sur la philosophie de l'environnement et je m'aperçois que beaucoup de philosophes de l'environnement sont états-uniens. Donc, une première envie, c'est d'aller rencontrer ces gens-là. Et puis, vient se greffer là-dessus tout un imaginaire, en fait, des grands espaces américains et aussi l'envie de découvrir une contre-culture américaine dont j'avais eu quelques aperçus à travers des amitiés et des amours quand j'étais adolescent. Et aussi, finalement, l'idée de, à partir d'une perspective de philosophe de l'environnement, d'essayer d'explorer le contraste entre, voilà, le modèle hégémonique américain, capitaliste, impérialiste, pionnier et leader, on pourrait dire, du capitalisme thermofossile, donc aussi en un sens leader dans les destructions environnementales, et puis à la fois au sein même de ce modèle, au sein même de ce pays, une contre-culture écologique qui, je pensais, était d'autant plus vigoureuse qu'elle devait s'affronter à un modèle très puissant.
Et là, vous avez été servi. Alors, vous aviez tracé une ligne verte entre 30 écotopies, c'est cela. Et donc, vous partez en quête du soi écologique entre janvier et août 2016. C'est quoi ces écotopies ? Ce sont des lieux où émergent des alternatives écologiques et qui fonctionnent, en fait ?
Tout à fait. Alors, le concept ou le terme d'écotopie, je l'ai découvert en préparant le voyage à travers... une fiction littéraire qui est celle de Ernest Kallenbach, Écotopia.
Écotopia, magnifique. Roman magnifique.
Tout à fait, une façon de transposer l'utopie écologique, l'utopie littéraire dans un paradigme écologique. Et donc, qui se passe voilà, au nord-ouest des États-Unis, dans un territoire qui a fait sécession, qui a organisé toute la vie politique, sociale, éducative, les transports aussi, autour des questions écologiques. Et donc, Kallenbach utilise aussi le concept d'écotopie pour décrire justement des lieux d'alternative et de résistance au modèle hégémonique destructeur, donc des éco-villages, des coopératives d'habitation, des parcs naturels, des jardins urbains, etc. Et je me suis dit que c'était un concept qui permettrait d'unifier les différentes rencontres et les différents lieux que j'avais envie de de rencontrer au cours de mon voyage et aussi dont j'avais envie de témoigner à travers voilà un projet pédagogique et puis un blog qui accompagnait en fait mon parcours.
Et oui, volet pédagogique puisque vous avez pu faire travailler aussi des classes hein, de lycée. Alors vous expliquez dans votre livre que vous emmenez trois questions philosophiques. Je vous lis dans mes bagages, j'emporte trois questions philosophiques principales. Quelles sont les causes des crises écologiques? Comment, face à ces crises, de nouvelles relations avec la nature sont-elles en train de s'inventer et de se mettre en œuvre? Que faire individuellement et collectivement? Dites-nous, puisque nous en étions là aussi avec Guillaume Pettel, qu'est-ce que vous avez mis dans vos bagages, en dehors des trois questions philosophiques?
Alors, j'avais en effet le nécessaire pour la subsistance, hein, donc une forme d'autonomie avec de quoi se vêtir, s'abriter, se nourrir. Et puis j'avais quelques livres et une petite trompette aussi qui m'accompagne. Je suis musicien et qui a permis à la fois d'habiter certains lieux musicalement et aussi de faire certaines rencontres autour de la musique dans mon périple. Voilà, c'était en un sens une façon de se rapprocher du, peut-être pas du strict nécessaire, mais d'une interrogation sur ce dont on a besoin finalement pour traverser l'existence, ce dont on a besoin pour subsister, avec aussi la réalisation que je m'étais chargé de beaucoup de choses qui étaient en réalité des choses qui révélaient certaines peurs liées au chaud ou au froid ou aux rencontres que j'allais avoir. Et à mesure que le voyage avançait, que ces peurs parfois se diminuait ou s'allégeait, je me délestais aussi de certaines choses. Et en tout cas, je crois que c'est une des choses du voyage à vélo de redonner le sens de ce que peut être un sens concret, parce que physiquement vécu, de ce que peut être un poids que l'on porte avec soi, un poids que l'on porte sur la terre pour sa subsistance, et avec l'idée que une des choses importantes d'un point de vue de l'écologie, c'est de comprendre comment alléger ce poids et comment dans cet allègement il y a une forme d'intensification aussi de l'existence et des choses qui sont importantes pour la subsistance et aussi pour le sens que nos vies ont.
Guillaume Pettel, ça résonne complètement avec ce que vous avez vécu.
Ouais, ça me fait penser j'avais croisé un Allemand au Cap Nord qui lui voyageait dans un grand camping-car dans lequel il m'avait gentiment hébergé. J'avais dormi dans le couloir de son camping-car, donc si il y avait un couloir, c'est qu'il était grand. Et il m'avait dit, en regardant mon vélo, tu sais, on voyage avec le poids de nos peurs et moi, j'ai très peur. C'était un petit peu ça, ouais.
Vous aviez emmené, Guillaume, des livres dans vos bagages?
J'ai essayé. Alors, j'étais pas parti avec des livres, mais on m'en a offert pour Noël. C'était une belle tentative parce que je les ai emportés en me disant « c'est parfait, les nuits sont très longues, je vais passer du temps à lire ». Et la vérité, c'est qu'ils étaient dans un état assez terrible dans le fond des sacoches avec l'humidité pliée en 8. Alors c'est des beaux souvenirs, mais j'en ai lu que quelques pages malheureusement. J'étais épuisé le soir, donc c'était un peu compliqué. Ouais.
À rattraper alors. Damien Delorme, c'est une préparation de soi, hein, un voyage à l'intérieur de vous-même. Dans ces conditions-là, vous deviez penser aussi à l'écologie profonde de Arnès notamment et bien d'autres qui nous renseignent sur ces façons d'habiter la Terre et de vivre avec le vivant. Une préparation physique et mentale, on imagine, qui laisse la place au hasard aussi, quand même, ou pas?
Tout à fait. Alors, plutôt qu'au hasard, je dirais une forme d'improvisation. Moi, j'ai eu la chance, disons, de faire beaucoup de vélo quand j'étais jeune et adolescent. Donc, il y avait un fond, disons, métabolique ou physiologique qui faisait que je savais comment mon corps allait plus ou moins réagir à l'effort d'endurance et à des périples long cours. Et ensuite je n'ai pas fait de préparation spécifique, dans la mesure où voilà, c'était en un sens ce mode de vie depuis j'avais une trentaine d'années quand j'ai fait le parcours, mais ce mode de vie depuis une trentaine d'années qui avait contribué à me construire comme avec des qualités ou des compétences qui me permettaient d'être relativement confiant vis-à-vis de ce type de d'effort. L'improvisation elle venait surtout dans la façon de tracer le parcours, puisque j'avais en réalité quelques points de chute, quelques points de rencontre, mais assez peu de choses très fixes avant mon départ. Et Et donc, c'était au jour le jour, en fonction des rencontres, en fonction des recommandations, en fonction aussi de l'état affectif, mental et physique qui était le mien, que les choses s'improvisaient. Mmh. Et aussi, je dirais qu'une des choses importantes, disons, de la préparation, c'est de comprendre que, dans le fond, elle va être déconstruite ou défaite par le voyage. Mmh. Dans l'une des spécialités des forces, c'est précisément d'aller contre nos attentes et de nous proposer des surprises et des rencontres là où on ne les attend pas.
Et alors, partir à vélo, la mobilité douce, c'est aussi, et vous l'écrivez dans votre livre, Damien Delorme, une confrontation directe à la violence des moteurs rageurs. Surtout aux États-Unis, on l'imagine, où une pétroculture règne, comme vous le dites, et où la nature est surtout colonisée par les humains, avec très présente une dynamique de croissance du capitalisme fossile et de l'extractivisme. Comment ça s'est passé, cette relation entre vous, cyclonautes, et les autres véhicules dans un pays comme les États-Unis ?
Voilà, alors c'est d'abord une expérience de violence, c'est-à-dire que une expérience de violence et d'exclusion. C'est-à-dire que l'expérience première, c'est qu'on n'est pas à sa place dans l'espace routier, que à la rigueur, notre présence est tolérée dans certaines marges, dans les bas-côtés, mais que en réalité, l'espace est fait, pensé et normalisé pour les moteurs, les voitures, les grands camping-cars, les camions, etc. Et donc, cette expérience d'expulsion du centre, d'exclusion du centre, cette expérience de la marginalité, elle est aussi une expérience de la confrontation avec sa propre mortalité. D'abord parce que sur les bords des routes, il y a de nombreux cadavres. Alors, quelques cadavres d'humains avec des petites croix ou avec des vélos blancs qui marquent symboliquement, en fait, les lieux où des cyclistes sont morts, mais aussi surtout beaucoup de cadavres d'animaux. Et en fait, en parcourant ces bas-côtés et en se sentant finalement menacé assez régulièrement sur la proximité, la vitesse, le rugissement et la puissance des voitures, ben on se sent finalement plus proche de ces êtres morts ou très, très vulnérables sur les bas-côtés que de nos congénères humains motorisés.
Guillaume Bettel, une différence en Europe ressentie ? Parce qu'aux États-Unis, on voit bien les images quand même de ces autoroutes et c'est impressionnant.
Bah, moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrivais quelque part, on me disait « Tu verras, le pays d'après, ils conduisent comme des malades. » Et je passais dans le pays d'après, je ne trouvais pas trop. Et puis, ils me disaient « Le pays, là où tu vas, ils conduisent comme des malades. » Et donc, on m'avait par exemple vendu que l'arrivée dans Athènes était une catastrophe et qu'il fallait prendre un bus. Et je me suis même pas rendu compte que j'arrivais dans le centre d'Athènes. Alors peut-être que d'être parisien, c'est là qu'il y a un avantage. On sent plus qu'il y a des voitures qui nous frôlent. Donc globalement, j'étais pas très angoissé, mais.
Mais la cohabitation avec les véhicules, vous l'avez perçue, ressentie comment ?
Pas vraiment. Après, moi, j'ai pris beaucoup de petits chemins qui peut-être existent un peu moins aux États-Unis. Je sais pas du tout. Je suis jamais allé là-bas, mais j'évitais un petit peu autant que faire se peut, passer dans les petits coins, les petites montagnes, les villages, là où je pourrais pas retourner, en gros, et donc les endroits les moins accessibles du continent plutôt. Ouais.
Alors c'est aussi la confrontation, Damien Delorme, pour vous aux États-Unis avec des ravages et avec aussi les effets de l'anthropocène. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé dans le 19-20 sur France 3 le 8 septembre 2020.
Un ciel inquiétant, orange couleur de flamme, voile l'horizon de ces automobilistes sur l'autoroute.
C'est flippant ici.
Des flammes gigantesques avalent peu à peu les forêts de Californie. Cette année, au moins 8000 km² sont partis en fumée, du jamais vu depuis 33 ans. Plusieurs localités ont reçu l'ordre d'évacuer, mais des dizaines de personnes venues camper pour le week-end se sont retrouvées piégées. Elles sont la priorité des quelques 14 000 pompiers mobilisés.
Le terrain est escarpé, difficile, en pente raide, avec des canyons. On ne peut pas envoyer des hommes sur place sans avoir fait des repérages aériens.
Ces incendies, intensifiés par une vague de chaleur exceptionnelle, sont, selon les pompiers, majoritairement d'origine humaine. Celui-ci, par exemple, a été provoqué par un feu d'artifice lors d'une fête. Heureusement, ces randonneurs ont pu être évacués par l'armée, soulagés d'être en vie. Ils retrouvent leurs proches.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Damien Delorme, vous êtes retrouvé face à l'anthropocène ?
Oui, alors L'Anthropocène, qu'est-ce que c'est? L'Anthropocène, c'est la façon dont les collectifs humains marquent les milieux de vie et la nature de façon principale, massive, inévitable. Et donc, l'Anthropocène, je l'ai rencontré sans cesse, en réalité, dans la façon, dès le début, en fait, en Floride, dans la façon dont le territoire a été colonisé, artificialisé, pour la... ils ont exploité pour l'agriculture intensive, peuplé d'êtres hybrides liés à des formes, qualifiés d'espèces invasives, mais liés à des formes de transfert d'animaux, comme ça, notamment les pythons birmans. Donc ça, c'est des premières confrontations avec l'Anthropocène, c'est l'artificialisation, la transformation de la nature et l'hybridation à très nombreux endroits du territoire. Le deuxième confrontation assez violente, ça a été avec tout ce qui relève de l'industrie pétrochimique, les plateformes, les raffineries, dont en fait l'impact sur les milieux sont directement sensibles quand on les fréquente ou quand on les croise à vélo, puisque l'air est irrespirable, l'eau est polluée, donc imbuvable, etc. Une des rencontres les plus violentes pour moi, ça a été la rencontre avec l'agriculture intensive et notamment avec l'élevage intensif au Texas, où sur des kilomètres, des milliers de vaches qualifiées têtes de bétail étaient là pour être engraissées, tuées, pour produire de la nourriture bon marché et qui en fait contaminait l'ensemble du milieu et l'odeur était pestilentielle. C'était habité par personne. Il n'y avait que quelques travailleurs, sans doute illégaux, qui travaillaient au bulldozer. Donc voilà, c'est ça l'Anthropocène. C'est la façon dont l'humain, en fait, détourne certains processus naturels à son profit. Et puis, évidemment, pour rebondir sur votre son, oui. Donc c'était avant les grands feux qui s'accélèrent et qui se multiplient ces dernières années, mais il y avait déjà en Californie la présence d'immenses feux qui détruisent en réalité l'ensemble d'un milieu de vie et des vivants et qui étaient une menace directe pour beaucoup de lieux que j'ai visités, d'écotopies, qui se demandaient finalement si cet espace, ce qui les hébergeait, ce milieu qui les hébergeait, qui leur permettait de développer soit des modèles sociaux alternatifs, vous voyez, d'autres formes de rapport à la propriété, d'autres formes de rapport au travail, à la subsistance alimentaire, comment ces lieux eux-mêmes devenaient, dans le fond, invivables ou inhabitables, directement inhabitables, du fait de cette menace d'incendie. Donc, d'une certaine façon, les incendies ou les feux, c'est aussi, on pourrait dire, en condensé, une menace qui pèse au niveau planétaire sur des millions de personnes et de plus en plus intensément, qui est la menace de l'inhabitabilité, finalement, des milieux de vie.
Et puis, en dehors de ces paysages ravagés, bien sûr, vous avez, et l'un et l'autre, découvert des paysages autres, formidables, d'autres façons aussi de vivre ce rapport à la nature et au sauvage, des lieux de vie qui vont avec la beauté du monde et des paysages grandioses.
En vrai, de vrai, là, c'est fou. Juste, je regarde le paysage dans lequel je suis. À deux doigts de verser ma petite larme, là. Cette rivière, bon, quand elle aura fondu, elle se jette dans l'Arctique, dans l'océan Arctique. Un truc de fou, quand même. Je sais pas, moi, c'est vraiment dingue d'être arrivé là à vélo. Ça me rend complètement fou. Bientôt, ça aura tout fondu. C'est le soleil, hein, ça me pique les yeux, c'est pour ça. C'est le vent et tout. C'est incroyable.
Guillaume Pétol, vous étiez où à ce moment-là?
J'étais deux pas du village le plus au nord de la Finlande, donc qui s'appelle Nuorgam, qui est vraiment perché dans la petite pointe nord-est du pays. Et donc à la frontière norvégienne, la rivière dont je parle là, elle sépare la Finlande de la Norvège. Et au moment où j'y étais, on pouvait traverser à pied sur la rivière. Donc c'était complètement dingue. Et donc j'étais à, je pense, 50 bornes à vélo. J'y suis allé le lendemain de l'océan Arctique, quoi.
Ces spots inimaginables, en tout cas, ces paysages grandioses, hein, est-ce que ça fait oublier justement ceux qui sont malheureusement ravagés et que vous avez pu, vous aussi, à l'image de Damien Delorme, traverser?
Typiquement, l'arrivée dans Athènes se fait dans une forêt qui est calcinée complètement depuis plusieurs années. C'est un peu catastrophique. En Tchéquie, il y a aussi une grande partie qui s'appelle la Suisse bohème, à l'ouest du pays, qui est pareil, complètement brûlé. Donc ça fait des paysages un peu apocalyptiques, qui sont pas, qui ont une forme de sublime aussi, mais terrifiant. Et je sais pas, moi j'ai moins vu d'énormes exploitations agricoles, parce qu'en Europe on a un peu moins ça, en tout cas ça doit être moins terrifiant, quoi. Et puis mais ce qui est sûr, c'est quand on traverse ce genre d'endroit à vélo, comme on y passe quand même relativement lentement, même si on peut pédaler vite, on a le temps de les voir défiler, de s'en imprégner, et donc ça a le temps de laisser des images très durables. Et ça fait du bien aussi quand on voit autre chose.
Mais oui, des images, des odeurs, parce que cette vie ordinaire, en fait, devient différente. Hein. Il s'agit de se nourrir, se chauffer, dormir, habiter les espaces, etc. Circuler à vélo avec plus de temps, le rapport au temps est dilué, dilaté et en même temps intense. Et puis, comme vous le dites, bien, c'est aussi respirer, s'entendre respirer dans le froid glacial, notamment, ou sous la chaleur. Le partage du souffle, les sens qui deviennent plus aigus. On sent que vous détectez et l'un et l'autre des atmosphères, vous flairez les effluves, vous écoutez les ambiances. Il y a les pensées qui arrivent aussi, parce que être sur ce vélo, c'est vraiment une mécanique à penser.
Ouais, on a beaucoup de temps pour nous, on a des idées qui arrivent un peu comme ça, plus ou moins par magie, et puis d'un coup on s'accroche à une phrase qui passe dans notre tête, et puis on commence à creuser, et puis est-ce qu'on est d'accord avec ça, et puis en fait on n'est peut-être pas d'accord, et on se bagarre un peu avec les mots, et c'est... Ça laisse des tas. J'avais l'impression parfois de faire des espèces de dissertations comme pendant mes études, mais tout seul sur mon vélo.
Mental.
Ouais, même à haute voix.
Vous n'écriviez pas, en fait.
J'écrivais des choses pour me souvenir des journées. J'écrivais dans un petit carnet chaque jour, mais vraiment quelques mots pour en fait me forcer à le tenir pendant 422 jours. Mais par contre, non, les grandes, je pense qu'il est resté de ces grandes dissertations solitaires. Des constats et des convictions un peu profondes que je pourrais peut-être pas énumérer toutes comme ça, mais qui font maintenant un peu le fond de comment je vois les choses, j'imagine.
Et puis il y avait des rencontres avec le vivant aussi, hein, des moments assez incroyables, comme des rennes qui traversent devant vous tranquillement la route, ouais, par exemple, ou d'autres.
Animal représentatif de la Scandinavie, c'était assez fou. Et c'est un peu leur mouton là-bas, donc c'est un peu étonnant, parce qu'en même temps, ils sont associés aussi à une forme de culture. À Nouargam, justement, dans le village dont je parlais tout à l'heure, il y a trois jeunes qui m'ont laissé 500 grammes de rennes séchées qu'ils avaient piquées à un éleveur. Et je savais pas trop quoi en faire, si j'allais le manger ou pas. Finalement, dans le tunnel du Cap Nord, j'étais assis par terre, il faisait froid, je me suis dit, j'ai pas à manger, je me suis dit, je vais taper dans ce truc de renne. Mais bon, ça fait bizarre de voir ce genre d'animaux-là aussi banalisés là-bas, mais c'est... Pour un voyageur à vélo, c'est d'autant plus impressionnant que pour un voyageur en voiture, ou je parle même pas de l'avion, puisqu'on voit pas tout ça. Mais on passe vraiment juste à côté, ils nous frôlent, ils ont peur et en même temps, ils savent qui on est, donc c'est assez rigolo.
Damien Delorme, une machine à penser, hein, comme je disais, et le mot machine n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, c'est vraiment cette façon de se recentrer aussi, de gérer le temps autrement, et puis d'aller à la rencontre de villages autogérés, d'universités novatrices, des écotopies que vous avez pu découvrir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement ?
Oui, alors simplement pour rebondir un petit peu sur la question de la beauté, je crois que le voyage à vélo, parce qu'il met en jeu le corps, nous rend très sensibles, et donc il nous rend à la fois très sensibles au ravage et puis en même temps très sensibles à la beauté, avec une intensité qui parfois dépasse la sensibilité qu'on peut avoir d'ordinaire. Et ça permet dans le fond d'équilibrer, on pourrait dire, le rapport qu'on a au milieu qu'on traverse, avec cette idée que l'intensification des émotions est aussi liée à l'intensification de l'impression, de la vie que l'on mène, du sens que l'on donne à son existence à ce moment-là. Mmh. Et donc, dans la pensée, je pense aussi que la pensée qui vient à vélo, c'est une pensée qui est foncièrement incarnée. C'est aussi pour ça qu'elle nous surprend parfois. C'est le corps qui parle, c'est le corps qui nous, c'est le, c'est le corps qui fait que les pensées nous traversent. Et en effet, il y a du coup, pour moi, quelque chose de très créatif et très, très complémentaire avec l'écriture dans le voyage à vélo. Alors, dans les écotopies, mais, disons, il y a différents modèles, mais qui, je pense, toutes et tous ont pour point commun de mettre la préoccupation écologique ou les enjeux écologiques ou l'idée que l'écologie fait partie de notre existence au cœur de leur projet. Alors ça peut être des projets, moi, un des projets qui m'ont marqué, c'était des projets qui essayaient d'allier les dimensions sociales et puis les dimensions de la subsistance, donc par exemple les questions alimentaires. Donc, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, il y avait un jardin urbain qui à la fois faisait de l'agriculture, du maraîchage biologique, qui vendait sous les formes d'AMAP, mais qui avait tout un programme de formation pour des leaders noirs américains sur des enjeux de justice alimentaire, sur des enjeux aussi d'autonomie et de d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire en lien avec les mouvements paysans comme la Confédération paysanne ou la Via Campesina. Donc voilà, ça c'est un exemple d'écotopie, c'est-à-dire c'est des collectifs qui vont s'organiser sur un aspect en mettant la question écologique, c'est-à-dire aussi sociale et politique, au cœur de leurs préoccupations. Voilà, un autre exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'était des différentes formes de coopératives, mais notamment des coopératives qui repensaient le rapport à la propriété pour dans le fond, transformer le rapport à un territoire et en faire un rapport où les vivants humains sont là pour prendre soin du territoire et pas pour se l'approprier ou pour accumuler du capital, et qui permettait du coup de faire de ces lieux des lieux d'accueil, des lieux de formation, des lieux aussi d'éducation pour les enfants, des lieux de formation pour les adultes dans différents types de pratiques, et qui servaient aussi d'oasis, de décélération pour de nombreux urbains qui venaient dans ces lieux, et aussi de contre-modèles qui parfois permettaient de transformer les législations locales ou les réglementations pour déjà faire advenir à une petite échelle quelque chose comme un autre monde où les questions écologiques sont au centre. Quoi.
Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, bien sûr, je renvoie votre livre, hein, Damien Delorme, L'autre rêve américain, paru chez Actes Sud, où vous décrivez dans le détail toutes ces écotopies rencontrées. Vous avez en commun tous les deux aussi la musique, on l'a compris, puisque Damien Delorme a emmené son instrument préféré, la trompette, avec lui. Vous, Guillaume Pétel, c'était plutôt des chansons, des dans votre téléphone, j'imagine, il y avait certaines que vous écoutiez plus précisément, comme Shady Grove, ouais, et Doc Watson.
C'est rigolo, c'est des musiques qui sont venues, qui sont restées tout le voyage parce qu'elles sont arrivées au début, en fait. Et parce que, en l'occurrence, celle-ci, j'ai été hébergé dans une maison dans le sud, et il y avait une autre personne hébergée là-bas qui écoutait cette chanson, et je m'étais dit, oh, elle est pas mal, et puis je l'avais mise, et en fait par effet de boucle, elle revenait, donc elle est restée pendant 14 mois et donc maintenant quand je l'écoute, je revois des endroits, voilà.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Cheeks as red as a blooming rose and eyes are the prettiest brown. She's the darling of my heart, sweetest little girl in town. Wish I had a glass of wine and bread and meat for two. I'd set it out on a golden plate and give it all to you. I went to see little Shady Grove, she is standing in the door. Her shoes and stockings in her hand and her little bare feet on the floor. I wish I had me a big fine horse and the corn to feed him all. Little Shady Grove to stay at home and feed him while I'm gone. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away.
C'était Shady Grove de Doc Watson et c'est le choix musical de Guillaume Pettel, l'un de nos deux invités. On parle vélo, partir à vélo de la quête de soi aux grandes causes humanitaires ou comment le vélo permet de tisser de nouvelles relations avec la nature et les autres entre vertus écologiques et aventures humaines. C'est la suite de Deux causes à effet, votre magazine de l'environnement avec nous Guillaume Pettel, diplômé en lettres de Sorbonne Université, un cyclopote qui a réalisé un tour d'Europe en solitaire en 14 mois. Soit 22 km pour récolter des dons, ce qui a permis de sauver deux enfants avec l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et puis Damien Delorme, docteur en philosophie et théologie, auteur de L'autre rêve américain paru chez Actes Sud et qui a vécu un parcours de 10 000 km à travers le continent nord-américain. Beaucoup d'enthousiasme, en tout cas, entre nos invités partagés, mais aussi un enthousiasme qui a pu être mis à rude épreuve.
Là, j'ai le vent dans le dos à 70 km/h. Je vole, c'est un peu fou parce qu'il faut vraiment s'accrocher. Là, je suis sur du plat. Je pédale pas. C'est incroyable. Oh la vache. Le vent aujourd'hui, c'est le plus fort que j'ai jamais eu depuis le début du voyage. Je me projette. Monstrueux.
Vous pensiez vraiment que là-haut les conditions seraient confortables? On est début mai, je vous rappelle.
Là, j'ai pris un premier tunnel et quand je suis sorti, la tempête dehors là, le vent il est passé de 70 à 100 km/h et ça va être comme ça toute la nuit, donc ça va être très 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 violent. J'espère que là je me suis trouvé un petit abri, j'espère que je vais pouvoir dormir tranquillement ici. Je pense que je vais mettre juste le matelas là ou là, le plus à l'abri possible. Ça souffle et puis en plus il pleut. Un peu terrible les conditions. Au bout du monde, faudra aller le chercher.
Nouvel extrait de votre film, des vidéos qu'on peut retrouver d'ailleurs, on peut le mentionner sur YouTube. Hein,
oui, exactement. Ça, ouais.
En tapant votre nom, j'imagine.
Le Cyclopote.
Le Cyclopote. Et donc vous allez pouvoir vivre ces aventures avec Guillaume Pettel. Alors le vent dans le dos, c'est plutôt bien, c'est bénéfique, hein, on va plus vite. Mais alors le vent de face, c'est une autre aventure. Et puis la pluie, la neige, le froid jusqu'à moins 10 degrés, pédaler dans la neige, s'y enfoncer jusqu'à 1 mètre, etc., etc. Qu'est-ce qui a été le plus dur?
Je sais pas, le moment le plus dur du voyage, c'est incontestablement le début juillet, quand je pars, les deux premières heures, parce que c'est le moment où il y a tout à faire, et où en fait, ça fait une semaine et demie que j'ai plus envie de partir, parce que je sens que ça arrive, et je sens aussi que je laisse mes frères et sœurs, ma famille, mes amis, et je me dis, wow, là, je pars pour un bon bout de chemin où je vais pas les voir. Donc c'est plutôt ça le difficile, c'est sûr le vent de 70 km/h, surtout en Norvège où il tourne beaucoup et où les fjords nous forcent à l'avoir un coup dans le dos, un coup de face. Là c'est un peu rude, mais au pire on a froid, au pire on marche à côté du vélo, au pire on s'arrête et on essaie de se mettre contre un caillou et ça va passer. Et c'est pas des problèmes très graves. C'est ce qui fait aussi la beauté du voyage à vélo, je trouve, c'est que c'est très simple. C'est pas forcément facile, mais c'est extrêmement simple. Et ça, c'est top.
Et vous gardez l'humour, hein, systématique. Vous avez eu des moments quand même de blues ou de...
Bah vraiment, ce départ qui était une catastrophe dans ma tête.
Et après, non.
Et après, non. Après, on se remet des objectifs. On a envie d'aller voir des choses. On est curieux, en fait. Et donc,
on s'émerveille.
Ouais, c'est ça. Ça passe tout seul.
Même dans la solitude.
Même dans la solitude. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on est vraiment tout seul. D'autant que moi, pour lever des sous avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, je communiquais quand même pas mal sur le voyage. Donc j'avais ce lien avec des gens que parfois je connaissais pas du tout, même souvent, mais qui étaient là pour soutenir le projet. Et donc ça, c'est une force incroyable. Donc on n'est pas vraiment seul non plus. Les moments de solitude où on croise personne sur la route, ils sont plutôt savoureux parce qu'on se dit que là, on roule, il n'y a pas de voiture. Donc je me suis pas senti seul, je pense, par micro moment, mais c'est Puis on est toujours regardé, un peu épié par les gens qu'on croise, qui veulent nous parler, qui veulent savoir d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait chez eux, alors qu'en fait on passe par chez eux, mais il se trouve qu'on va pas chez eux. Mais eux, ils ont toujours l'impression qu'on est venu ici, et donc
on ne fait pas vraiment couleur locale, quoi.
Ouais, c'est ça. En plus, on m'a beaucoup confondu avec des Ukrainiens ou des Russes, donc manifestement j'avais une tête de déserteur, mais
mais bon. C'est... Bon, mais en tout cas, il faut aussi préciser pour nos auditeurs que vous deviez vous filmer, donc vous aviez de quoi vous filmer avec votre téléphone, mais aussi vous deviez gérer un drone depuis le vélo. Enfin bon, c'est vraiment techniquement, c'était aussi une performance, et pour recharger tout cela, une batterie quand même externe, mais ouais. Ce sont d'autres paramètres à gérer.
C'est ce dont j'étais pas sûr quand je suis parti. Je m'étais dit, ça se trouve, je ramènerai pas des images de ce voyage ou pas autant parce que ça m'embêtera de devoir gérer cette logistique. En fait, c'est vrai que ça fait des souvenirs assez incroyables. C'est quand même quelque chose que je vais pas refaire tous les jours dans ma vie et dont j'ai envie d'avoir des souvenirs. Et ces images-là, bon, la logistique, on s'y fait, une batterie externe, un petit panneau solaire, et puis dès qu'on peut s'arrêter dans une station-service, demander est-ce qu'on peut faire charger un petit peu les batteries. Et
beaucoup de solidarité rencontrée.
Énormément, vraiment quasiment, enfin non, systématiquement, c'est incroyable.
Damien Delorme, la notion d'accueil est plus facile quand on est face à un cyclonaute nomade, hein, c'est ce que vous avez expérimenté. Et parlez-nous aussi peut-être de cette idée de solitude, on vous a posé la question, mais que fais-tu de tout ce silence?
Oui, bah, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, c'est vrai que quand on voyage en un sens seul, on n'est jamais vraiment seul, quoi. Déjà, il y a beaucoup de pensées, parfois d'agitation mentale, des objectifs, des choses à gérer. Et puis il y a beaucoup de rencontres aussi, parce que le voyage à vélo, c'est une façon de se présenter en vulnérabilité, je dirais. Donc, d'une façon où on n'est pas là pour imposer une présence, on n'est pas vraiment assuré, on est parfois perçu comme fragile, et donc ça suscite finalement chez des gens qui nous rencontrent de la bienveillance, de la générosité, et ça permet dans le fond de rencontrer aussi des personnes qui parfois sont soit de milieux sociaux, soit de coloration politique qui sont pas forcément les nôtres, et de les rencontrer sur ce niveau, on pourrait dire, un peu plus fondamental de ce qui peut être partagé quand des questions un peu essentielles comme la subsistance sont en jeu. Et donc voilà, la solitude, c'est en un sens, c'est une chance, quoi. C'est une chance à la fois pour se retrouver soi-même, pour faire l'expérience de l'altération que produit en nous le voyage, cette sensibilisation aux relations écologiques. Et puis, c'est aussi la condition d'une rencontre à des niveaux d'authenticité ou d'intensité qui sont parfois un peu extraordinaires. Moi, quelque chose qui m'a marqué dans le voyage, c'est que souvent, les personnes que je rencontrais me racontaient des choses très intimes, faisaient un peu un point sur leur vie en se demandant qu'est-ce qui importait pour elles dans le temps qui leur était imparti. Donc ça, je pense que c'est lié à cette... ce que la solitude permet comme rencontre.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai envie de lire un extrait de votre livre. Vous écrivez « Mon sentiment est que le nomadisme, cyclonautique et ses valeurs, légèreté, autonomie dans le mouvement, passage et usage sans appropriation, permettent à la fois une simplification matérielle, une intensification de l'existence et une forme d'élévation spirituelle. » Alors, dans ce silence qui n'en est pas un, vous parlez même de silence bruyant, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous à gérer peut-être quand même?
Alors, il y avait des phases de transition qui étaient difficiles, et je pense que c'était les phases où il y avait la suite de rencontres très très intenses, donc par exemple à Denton, à l'université North Texas, qui est un peu un bastion universitaire autour des questions de philosophie environnementale, où il y avait des grandes figures comme Bert Callicott. Donc on est là pendant une dizaine de jours, c'est très intense, c'est effervescent. Puis d'un coup, il y a à nouveau la solitude, la confrontation aux voitures, au mauvais temps, à la solitude, pour le coup. Et là, il y avait des moments où justement les transitions étaient confrontante, on dirait. Et puis après, moi, ce qui m'a étonné, c'était la façon dont j'ai réagi au désert. Donc, bon, j'ai grandi plutôt dans des milieux, enfin, en Savoie, donc plutôt habitué à la montagne, au froid. Donc, la confrontation avec la neige dans les rocheuses, avec la pluie, le froid, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment, déstabilisé outre mesure. C'était dur, mais c'était pas forcément invivable. Alors que la confrontation au désert, donc dans l'Utah, dans le Nevada, au début de la Californie, là, c'est quelque chose qui m'a confronté à des formes de projection, de peur, de limites. Et donc, c'est ça qui, pour moi, était le plus difficile, quoi. La confrontation à un milieu qui ne m'était pas familier et où je comprenais que je n'avais pas les codes et les compétences, peut-être, pour fonctionner aussi bien que dans d'autres milieux.
Et qu'est-ce que ce voyage a changé en vous, Damien Delorme ?
Voilà, c'est tout le cœur du livre, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je dirais que ce livre a été écrit sur une dizaine d'années, donc ça a pris du temps pour essayer de comprendre ce que ça a changé en moi. Et j'essaye de le raconter à partir de cette notion de soi écologique, qui est en fait une façon de répondre à la question qui on est, quel type d'expérience on a des relations écologiques. Et c'est une façon de dire, bah voilà, les questions écologiques, elles sont pas extérieures à nous, elles sont pas simplement une option partisane dont on pourrait à laquelle on pourrait s'opposer ou dont on pourrait se distancier. C'est finalement l'ensemble de nos actions de la subsistance, respirer, manger, habiter, se mouvoir, etc., qui sont traversées par des relations écologiques et qui font que l'écologie est à la fois une question intime et une question collective et politique. C'est cette notion de soi écologique que j'ai découvert qui me permet de comprendre ce qui s'est passé dans le voyage. Et ça a été une transformation, on pourrait dire, irréversible, au sens où une fois qu'on a découvert que, voilà, on est attaché à l'air qu'on respire, à l'eau que l'on boit, à la nourriture et aux réseaux qui permettent de se nourrir. Eh bien, on peut plus faire comme si on était hors sol, comme si le fait de manger n'était pas aussi une participation à certains réseaux plus ou moins destructeurs ou plus ou moins bénéfiques pour la planète, etc. Donc, ça a été une déconstruction de certaines structures, on pourrait dire, de la subjectivité moderne, un certain dualisme, un certain rapport un peu patriarcal à la nature et aux personnes. Et puis, ça a été une reconfiguration, on pourrait dire, une reconfiguration profonde de la façon de sentir, de la façon de penser, de la façon de se relier aux autres humains et non humains, d'une façon, à partir de ce qu'on peut appeler avec Arnès, avec d'autres, le soi écologique.
Oui, avec cette capacité d'entendre et d'écouter les voix basses et les polyphonies mineures, selon vos mots. Et puis, on peut dire que vous avez aussi honoré la mémoire d'un ami, Benoît, qui est décédé. Vous étiez tous les deux jeunes, étudiants, et vous aviez ces projets aussi à faire ensemble. Il y a cette dimension aussi d'avoir respecté un peu une sorte de promesse.
Oui, alors je l'avais pas vécu forcément comme une promesse. C'est plutôt le constat que les morts m'accompagnaient beaucoup aussi pendant ce voyage, et que une façon d'apaiser cette présence de fantômes ou des morts à mes côtés, c'était une façon de penser le voyage comme une façon de les honorer, d'honorer leur présence à mes côtés et la façon dont leur vie avait aussi contribué à cette aventure. Mais peut-être plus fondamentalement, je crois que le voyage à vélo, au-delà de mes propres morts, oui. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le voyage à vélo, c'est cette confrontation avec sa propre mortalité qui fait que on est en contact avec des dimensions existentielles assez fondamentales. On se pose assez facilement la question de quel sens notre existence, quel sens de l'existence aussi collective des humains sur cette planète. Et c'est là où finalement les questions écologiques elles prennent à la fois une profondeur parfois un peu vertigineuse, mais aussi où elles se reconnectent avec des questions très ordinaires et très simples dans le fond qui sont partagées par tout le monde.
Guillaume Pettel, avant de recueillir votre sentiment, je propose d'aller de plonger une dernière fois dans votre film, en tout cas ces extraits que vous nous proposez aussi. Toucher au but, c'est un grand moment, avec le sentiment d'être souvent ailleurs, presque sur une autre planète.
Au bout, il y a la boule blanche que vous voyez, c'est le Cap Nord, c'est l'arrivée. Oh putain, c'est incroyable. Les derniers kilomètres avant la fin de l'Europe. Regardez-moi la taille de cette falaise, je sais pas si on se rend compte, mais... Il y a 300 mètres de haut, quoi. C'est colossal.
Le paysage, j'ai l'impression d'être sur une planète vraiment étrangère là. C'est fou, c'est fou. On est en train de le faire là. On arrive. Regardez-le, ce bout du bout. Ce bout du bout. Oh la vache.
Eh oui, oh la vache, Guillaume Pettel. Ces moments-là, et en plus, on le voit dans le film, et un aigle vous attendait aussi au Cap Nord. Un joli signe aussi de ce vivant non humain.
Ouais, c'est un peu délirant. Il y a un peu parfois l'impression, je trouve, que ce genre d'expérience, c'est scripté, quoi, comme si on avait écrit un scénario et que ça se passait comme si quelqu'un contrôlait tout derrière. Tout s'aligne un petit peu. Parfois, ça s'aligne sans s'aligner, c'est-à-dire que la météo est terrible, mais en même temps, il y a un aigle, en même temps, on arrive, on est hyper heureux. Et puis, il y a encore le bout de l'effort à aller chercher, mais...
Enfin, on arrive au bout, c'est-à-dire au Cap Nord, mais après, il y a le retour. Hein.
Alors, c'est vrai qu'il reste 3 mois d'aventure. Après, ouais, tout à fait. Mais ça n'a pas le même goût quand on fait route vers la maison,
quoi,
en fait.
Voilà.
Ouais, c'était quand même vraiment un tournant important, même pour les gens, d'ailleurs... Enfin, vis-à-vis de l'association, même, c'est le moment où je me suis dit, ok, là, on va aller au bout sur la cagnotte, ça va marcher, on va réussir à sauver ces deux enfants. C'était un grand tournant symbolique pour beaucoup de gens, et puis moi, c'était la première fois que j'allais mettre des coups de pédale vers chez moi depuis 10 mois, donc j'étais content.
Vous les avez rencontrés, ces enfants ?
J'ai rencontré la petite fille. Le premier enfant a été sauvé à la moitié de mon voyage. Donc, on m'a proposé de délayer et d'attendre. Mais, enfin, ça faisait pas trop sens, d'autant que je m'étais dit, on va essayer d'en sauver un autre. Donc, il a été opéré directement et il est rentré chez lui. Donc, tout s'est très bien passé. Le petit Eiffel en Côte d'Ivoire. Et puis, Malika, qui a été opérée, du coup, à mon retour, que j'ai pu rencontrer, qui avait tout juste un an, il me semble. Et de Côte d'Ivoire aussi. Et ça, c'est vrai que ça faisait vraiment quelque chose de voir... Que ces coups de pédale et que l'engouement des gens pour le projet avait donné la vie en réalité à une petite fille qui allait pouvoir retrouver sa famille, aller à l'école, respirer. Enfin, ça c'était assez incroyable.
C'est difficile de gérer l'après-retour.
Je sais pas, moi l'après-retour, il a été un peu étrange parce que j'ai commencé à travailler le lendemain. Donc c'est vrai que je suis arrivé le dimanche, le lundi, bam. Donc
de la même façon que là, il y a 2 jours, vous étiez dans un autre périple en canoë-kayak.
Exactement. Donc là, tout s'enchaîne un peu. Bon, là, c'était assez court et très intense, mais ce voyage, il était quand même très étendu. Donc l'arrivée, c'était un peu étonnant. En fait, a posteriori, c'était plutôt une bonne idée de se mettre tout de suite dans quelque chose parce que ça permet de ne pas accélérer toutes les activités qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant 14 mois et donc la première semaine de pas revoir tout ce qu'on n'a pas vu, faire le cinéma, le théâtre, aller prendre des verres et tout. Et donc finalement ça dilue un petit peu le retour à la vie civile et c'est pas plus mal.
Mais cette vie civile, vous la regardez de la même façon, je pense à cette phrase de Damien Delorme, il est plus que temps de se réveiller collectivement pour tout changer, c'est-à-dire sortir des énergies fossiles, arrêter la fuite en avant, revaloriser les relations d'interdépendance et de solidarité entre vivants non humains et vivants humains. Est-ce que vous en sortez aussi de ces expériences avec un autre regard sur nos sociétés ?
Souvent on dit que faire ce genre d'expérience, ça redonne foi en l'humanité, qui est une formule un peu galvaudée, mais pour dire que globalement on rencontre des gens très bons et très généreux sur la route. Ça, c'est une expérience que j'ai fait tous les jours quasiment. Enfin, c'était vraiment irréel, que ce soit dans la vraie vie entre guillemets sur la route ou les gens à travers cette cagnotte qui participaient à sauver des enfants. Moi, ça me sidérait en plus que derrière on me félicite alors que moi j'avais l'impression de faire uniquement du vélo. Mais je sais pas si je regarde différemment. J'ai l'impression que la bataille, elle passe un peu par là, mais voilà.
Et devenir aventurier, alors, ce sera votre métier ?
J'espère. Je me le souhaite, en tout cas.
Merci à vous, Guillaume Pettel, et direction la chaîne YouTube pour découvrir vos films et vidéos et revivre ce périple. Damien Delorme m'a conseillé votre livre « L'autre rêve américain, un voyage à vélo vers le soi écologique » édité chez Actes Sud. Un petit salut à une journaliste de la Maison Ronde aussi, Marie Maheu de France Info, une fervente cyclonaute. Et puis merci à tous ceux et celles qui m'épaulent et à vous tous qui nous suivez, bien sûr. Livres, informations, infos concernant cette émission sont à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet.